petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le 10 février 1996, l'ordinateur vedette d'IBM battait Kasparov, champion du monde d'échecs, précisément dans une partie d'échecs mémorable. Le 13 juin 2024, donc longtemps après, ChatGPT, fleuron de l'intelligence artificielle, arrive loin derrière le philosophe Eindhoven dans un concours de dissertation de philosophie dont le jury est celui de l'école Paris School of Technology and Business. Le philosophe obtient 20 sur 20, tandis que l'intelligence artificielle est notée 11 sur 20. Que se passe-t-il? Les supercalculateurs numériques seraient-ils en régression? En fait, les deux concours, celui d'échecs et celui de philosophie, ne sont guère comparables. L'intelligence artificielle est particulièrement performante pour imiter des systèmes très codifiés comme le jeu d'échecs. En revanche, la philosophie est certes une démarche rationnelle, mais avec beaucoup de liberté et créativité potentielle de la part des compétiteurs. Alors, le sujet à traiter était l'un des sujets donnés au bac d'enseignement général. Le bonheur est-il affaire de raison? Ni le professeur, ni l'ordinateur n'ont cherché à définir un tant soit peu bonheur et raison. Les deux ont utilisé un style ampoulé qui n'apportait rien à l'étude du sujet. ChatGPT a passé en revue les auteurs, plusieurs auteurs, sans trop se demander pourquoi, tandis que le philosophe s'enfermait dans une idéologie, sans justification d'ailleurs, celle du matérialisme. J'ai été, dans une autre vie, correcteur de l'épreuve de philosophie au baccalauréat. J'aurais mis 13 à l'ordinateur et non pas 11, 17 au philosophe et non pas 20. Le philosophe Raphaël Eindhoven se réjouit du fait que l'être humain l'ait emporté. C'est vrai que depuis 1996, on avait des doutes sur les performances de l'homme face à la machine. Mais je crois que nous nous trompons si nous nous félicitons de la bonne note de l'être humain. Quant à moi, je trouve beaucoup plus étonnant qu'un ordinateur, même de la dernière génération, arrive quand même à 11 sur 20, voire 13 sur 20. ChatGPT est une machine qui, malgré tout, en 10 minutes, dépasse la moyenne de 10 sur 10. Certes, l'homme l'emporte avec plus de 15 sur 20, mais après y avoir passé une heure et demie. Comme le dit Eindhoven, la philosophie fait appel à la réflexion personnelle, à l'analyse critique et à la créativité que la machine, elle, a du mal à assumer. Le raisonnement numérique de l'ordinateur se finalise par des calculs de probabilité. Quant à la poésie, elle utilise, elle cultive des métaphores. Paul Valéry, poète en Occitanie, hein, dans les rôles, hein, en l'occurrence, dans le début de son poème célèbre, le cimetière marin, commence ainsi, je le cite. Ce toit tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes, midi le juste y compose de feu, la mer toujours recommencée, aux récompenses après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Fin de citation. Alors, la colombe marche sur les toits comme des bateaux à voile qui naviguent sur la mer devant les yeux du poète. Les déplacements de sens des métaphores, colombe est donc la métaphore de bateau à voile, nous ouvre à l'altérité, à la polysémie, à l'hésitation du sens des mots. En science exacte, on évite les métaphores, voire par souci de rigueur. Pourtant, la métaphore en physique est fréquente. Par exemple, le mouvement de la Lune autour de la Terre trouve une métaphore riche de découvertes scientifiques. Quand, par exemple, Newton assimile la gravitation de la Lune, autour de la Terre donc, à la chute d'un corps à la surface de la Terre. Les métaphores qui déplacent le sens sont du même ordre que le pouvoir faire autrement de la liberté humaine. Kant pense que l'homme est libre dans la mesure où il peut faire autrement que ce que lui indique son instinct, alors que l'animal est très souvent prisonnier de son déterminisme. Le loup ne peut pas faire autrement qu'être vorace, sauf si l'homme le dompte plus ou moins. Bref, métaphore poétique et liberté procèdent l'une et l'autre, de l'ouverture à l'altérité, de la capacité interrogative de l'homme. Sur ce terrain glissant, ChatGPT a du mal à suivre. Les choses, les événements, les états d'âme ont plusieurs sens à la fois. Du coup, j'ai besoin que mon interlocuteur, quel qu'il soit, une personne humaine ou ChatGPT, que mon interlocuteur soit capable de lire entre les lignes et de comprendre à demi-mot. D'où vient cette interrogation de la conscience humaine? Il semble dans l'humanité qu'il y ait un invariant de l'interrogation. La plupart des sociologues et ethnologues notent la présence du sacré à l'origine des civilisations. Présence du sacré qui met le profane en question, qui est interrogation. Il n'y a pas que le fameux mana de Marcel Mauss et Claude Lévi-Strauss. Comment faire intervenir à une transcendance interpellative dans les accords, les calculs de ChatGPT. Le mana, pour ChatGPT, le mana ne sera tout au plus qu'une donnée parmi les millions, voire les milliards de données du Big Data. Mais il ne sera jamais la source d'une ouverture à l'altérité, comme c'est le cas dans l'homme. On s'oriente ici vers une autre hypothèse que le matérialisme de Entomment. La table devant moi est en bois. Tel vêtement est en laine. Alors, une idée ou un sentiment, c'est en quoi ? Il serait vain de répondre que les idées ou sentiments sont du neurone. Certes, l'activité neuronale joue un rôle important, dans la production d'idées ou de sentiments. Et aujourd'hui, cette activité biologique est augmentée par l'intelligence artificielle. Mais si nous regardons dans l'infiniment petit de l'activité neuronale, on n'y trouve pas d'idées, on n'y trouve pas de sentiments. Même si nous ramenons tout, y compris les idées et les sentiments, à des vibrations, voire la nouvelle physique quantique, l'étude de ces vibrations ne rendra jamais compte de ce qu'est une idée. L'idée et le sentiment n'ont pas de consistance. Je ne sais pas s'il faut dire que l'idée ou le sentiment sont immatériels, mais en tout cas, leur nature est extra-neuronale, extra-cervicale. Même si tel aveugle de naissance saurait parfaitement étudier les ondes et les couleurs perceptibles par l'œil humain. On le sait, entre 0,4 microns et 0,8 microns de longueur d'onde. Eh bien, cet aveugle de naissance, très savant, ne saura toujours pas ce qu'est le rouge, ce qui est sentir le rouge. Où voulais-je en venir à ceci ? À ceci, aucune machine ne peut sentir un état d'âme ou un état d'essence. ChatGPT peut imiter quelqu'un qui souffre, mais il ne peut pas souffrir. Par mimétisme anthropologique, je peux dire que dans telle côte, dans telle montée, le moteur de ma voiture souffre, mais le moteur n'éprouve aucune sensation, aucune souffrance. ChatGPT peut être médecin, infirmier, aide-soignant, car il sera formé et il se formera lui-même. Il fera mieux de, mais il fera mieux, non, justement. Il fera mine de compassion, mais n'éprouvera rien. Le malade ne supportera pas cette comédie de l'artifice. Ce n'est pas le seul travers grave de l'intelligence artificielle. L'homme s'est ouvert un piège en accédant à cette intelligence artificielle. Peu à peu, l'intelligence artificielle décide à la place des hommes au nom de l'efficacité et de la rapidité. Mais ChatGPT part des données qu'on lui fournit ou qui est à sa portée. Il peut se tromper. Mais qui vérifie ces travaux de l'intelligence artificielle? Qui vérifie ses conclusions? Personne. Car à quoi servirait de passer son temps à vérifier alors que le but était d'aller plus vite?
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.